Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, les Chemins de la Philosophie vous proposent des émissions spéciales cinéma et philosophie. Aujourd'hui, premier temps, la Dolce Vita de Federico Fellini.
Et pour finir, l'heure de la vérité est arrivée. Une heure délicate pour le jury qui, en accordant la Palme d'Or à Federico Fellini, a provoqué un certain mouvement de houle.
Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique.
Eh bien, je crois que j'ai eu assez de chance, car après tout, je fais exactement le travail qui convient le mieux à ma nature. En fait, je n'ai pas l'impression que je travaille. Tout me paraît être un grand jeu. Puis il y a aussi une chose qui est très importante. Je veux dire que le travail, tout au moins ce genre de travail, me donne de la sérénité, il me donne de la joie, parce que d'une certaine manière, c'est comme s'il s'agissait d'un grand alibi.
Le cinéma un grand alibi pour Fellini ? Oui, mais pas une fuite. Un camouflage peut-être, mais pour avancer plus sûrement, pour proposer plus tranquillement de donner à la vie ce qui lui manque, un sens. Rêves, fantasmes, errances ne sont que des alibis en effet, des alibis pour survivre en affrontant la peur. Peur qui avance masquée elle aussi, sous les oripeaux de l'ennui, de la décadence, voire de la déchéance. Quand Fellini ennuie, c'est qu'il touche juste, miroir métaphysique qui épouse nos rêveries les plus déjantées et nous met face à cette seule vérité, du monstrueux à l'ordinaire, du burlesque au banal, dans la vie comme au cinéma, il n'existe pas de guide et c'est tant mieux, semble nous dire le maestro. Suivons ce bruit qui rappelle celui d'une bobine de film qui défile et qui est en réalité celui d'un hélicoptère qui trimballe une statue de Jésus dans les airs, le plus naturellement du monde et au-dessus de la tête de mon invité notamment, Jean Gilly. Bonjour à vous.
Bonjour.
Leontine, che cos'è? Guarda, è Gesù. Ma dove va?
Jean-Gilly, vous êtes historien spécialiste du cinéma italien, membre du comité de rédaction de la revue Positif. Vous avez consacré un ouvrage à Fellini, hein, le magicien du réel, qu'on trouve aux éditions Gallimard. Et puis tout récemment, un ouvrage sur Marcello Mastroianni, magnifique, aux éditions de La Martinière, dans lequel on se promène avec délices et dont je recommande la lecture. Le début du film La Dolce Vita semble être fait pour la radio parce qu'il commence avec du bruit, un bruit très important, strident, celui de l'hélicoptère. Et pourtant, si on ne voit pas l'image, il y a tout un double sens de cette scène qui nous échappe, à savoir lorsque Marcello Mastroianni parle aux femmes qui sont en train de bronzer sur leur toit et qui voient l'hélico passer, et il essaie de déchiffrer sur ses lèvres ce qu'il est en train de dire.
Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais en écoutant cette bande-son, à savoir qu'elle est à la fois autonome et qu'on peut l'écouter seule et rêver à ces évocations que sont ces bruits, cette musique si caractéristique des films de Fellini. Et en même temps, on se rend compte que ce son est comme infirme, et qu'il s'appuie sur de l'image, qu'on a besoin d'image, parce que Fellini, c'est pas quand même quelqu'un qui a pu se passer de la création visuelle. C'est fondamentalement un inventeur de formes. Donc le son, auquel par ailleurs il accordait une très très grande attention, le son est quand même second. Alors le son peut avoir une autonomie, mais fondamentalement, il suggère des images. Et ce bruit d'hélicoptère, quand on a vu le film, évidemment, on ne peut qu'avoir à l'esprit ce Christ transporté par les cieux, qui va vers une destination qui, on suppose, un lieu religieux. Mais il y a ce mélange immédiat, ce choc entre le religieux et le profane, les jeunes femmes sur le toit, enfin sur ces terrasses romaines, en train de bronzer.
D'autant qu'à l'époque, le son était entièrement fait en post-production, n'est-ce pas ?
Le son est entièrement fait en post-production.
Donc il y a une dissociation entre l'image et le son, encore plus flagrante qu'aujourd'hui.
Total. Le cinéma italien, il faut attendre les années 90 pour que le cinéma italien commence à travailler en son direct. Fellini était très attaché justement à l'absence de son direct, au fait qu'on réenregistrait, on prenait sur le plateau éventuellement un son témoin. Bon, dans la scène de l'hélicoptère, on prend aucun son, c'est tourné en muet, hein, c'est la pellicule qui tourne, il n'y a aucun son. Quand il y a des dialogues, il y a des personnages qui parlent, on prend un son témoin qui va servir de colonne guide pour la post-synchronisation, mais on n'enregistre pas le dialogue. On fait même éventuellement, Fellini utilisait des comédiens de toutes origines, Donald Sutherland par exemple pour jouer Casanova, ou Broderick Crawford dans Il Bidone, ou Anthony Quinn dans La Strada. Fellini faisait appel à des comédiens étrangers qui pour lui étaient comme des comédiens italiens, ça n'avait aucune importance, de toute façon on les doublait. On sait que par exemple pour La Dolce Vita, les producteurs auraient voulu Paul Newman et non pas Marcello Mastroianni.
Et il dit avoir retenu le visage de Marcello Mastroianni parce qu'il voulait quelqu'un de neutre, je crois.
Absolument, absolument. D'ailleurs, là-dessus, on pourrait broder assez longuement pour expliquer la surprise qu'il y a quand on examine, et je viens de le faire pour ce livre auquel vous avez eu l'amabilité de faire allusion, lorsqu'on examine la carrière de Mastroianni avant La Dolce Vita, c'est-à-dire dans les années 50, c'est un jeune garçon sympathique, qui joue des rôles d'enfant du peuple, et qui n'est pas spécialement un séducteur, et qui, en aucune façon, annonce le personnage qu'il va jouer dans La Dolce Vita. Je dirais même que, à la limite, dans ce film, Mastroianni est utilisé à contre-emploi.
Profitant d'un répit, nous nous sommes hâtés d'aller bavarder un moment avec le très sympathique jeune premier, Marcello Mastroianni.
Marcello Mastroianni, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à partir d'une certaine heure, il m'est très difficile de travailler.
À cette heure-là, hein,
est-ce que vous, franchement, vous avez très envie d'être interviewé?
Oui, je suis content.
Vous adorez ça.
Je vous aime.
Écoutez, moi, je crois que, étant donné justement la nuit, la réception, l'ambiance à Dolce Vita, etc., très joli décor naturel que nous avons offert, je pense qu'on pourrait parler un petit peu à bâton rompu.
Essayons.
Vous êtes la vedette du film Dolce Vita, et lorsque nous l'avons vu à Rome il y a 2 mois ou 3 mois, il était l'objet de toutes les conversations. Je dois dire que tous les esprits étaient très échauffés. Est-ce qu'ils se sont calmés depuis?
Oui, maintenant, oui, un petit peu.
Et dans quel sens?
Oui, dans le sens qu'évidemment, ils sont fatigués de trop parler. On a parlé tellement les premiers mois, nous sommes maintenant au 4e mois. Si je peux être une fois spirituel, hein? On a perdu la voix, vraiment. Vous savez, on a parlé tellement, mais tellement d'être étourdi, fatigué.
Le très sympathique jeune premier Marcello Mastroianni au micro de François Chalet en 1960. La Dolce Vita vient d'être diffusée au Festival de Cannes. C'est un scandale.
D'abord, le film était précédé par une réputation sulfureuse. Les condamnations de l'Église, l'Osservatore Romano avait conseillé aux fidèles de ne pas aller voir ce film, sous peine d'excommunication, c'est-à-dire la chose était extrêmement grave. Et le film est interdit au moins de 18 ans, il le sera d'ailleurs également en France, par parenthèse. Donc le film arrive avec ce parfum de soufre, cette odeur de soufre, plutôt, pour être plus exact. Et le scandale est au rendez-vous, quoi. La représentation de cette turpitude de la bonne société romaine choque les festivaliers, surtout les festivaliers du soir, pas tellement la presse, qui dans l'ensemble parfois émet des réserves, mais le film est tout de suite accueilli avec admiration. Il faut dire que Fellini n'est pas un inconnu, qu'il a déjà obtenu un certain nombre de prix, qu'il a déjà tourné des films comme La Strada ou Les Nuits de Cabiria. Et donc là, il y a une espèce de confirmation de son caractère quelque peu visionnaire, pourrait-on dire. Et l'histoire suscite une très grande attention. Et au terme du festival, le film obtient la
Palme d'Or.
La Palme d'Or, avec, il faut le souligner, d'une part un président de jury qui est Georges Simenon, et d'autre part, dans le jury, il y a Arthur Miller. Donc des personnalités de la culture éminentes qui reconnaissent dans ce film une œuvre magistrale. Et il n'y a pas de doute que lorsqu'on passe en revue les innombrables Palmes d'Or, puisque maintenant le festival commence à avoir un certain nombre de dizaines d'années, on se souvient toujours, en 1960, en plus la date était facile à mémoriser, en 1960, la Dolce Vita de Federico Fellini.
Il faut dire que les images marquent de ce film et d'autres films de Fellini, évidemment, mais cette scène d'ouverture avec la statue du Jésus trimballée dans les airs par un hélico est une image qui reste longtemps dans la mémoire et qui, d'emblée, met en scène ce qui finalement a été repris par ce que nous avons dit jusqu'à présent, Jean Gilly, sur le goût de Fellini pour l'artifice, que ce soit par finalement la façon dont il s'accommode du post-montage, c'est-à-dire que le fait que les sons soient toujours accolés ensuite, l'importance du visage de Mastroianni qui est assez neutre mais dont il va faire quelque chose. Il aime recréer la réalité de manière à ce qu'elle soit encore plus réelle qu'elle ne l'était avant. C'est à ça que sert le cinéma pour lui.
Oui, d'autant que bon, on pourrait recevoir cette scène comme blasphématoire, un Christ comme
ça. Ah, c'est aussi le cas, oui.
C'est le gars qui arrive comme ça par les airs. Alors qu'en réalité, on a découvert que un ou deux ans auparavant, dans des magazines populaires, il y avait une couverture d'un de ces magazines qui représentait exactement cette chose-là. C'est-à-dire qu'une statue qui avait été fondue dans une fonderie à quelques kilomètres en dehors de Rome avait été transportée et apportée sur la place Saint-Pierre au Vatican par un hélicoptère, parce qu'on avait trouvé que c'était finalement la manière la plus simple, la plus pratique, la plus rapide de faire arriver cette statue place Saint-Pierre. Donc, ce n'est pas une imagination de Fellini, ce n'est pas une idée qu'il a eue, qui lui a traversé l'esprit, c'est né de quelque chose qui a réellement existé. Mais lui, sa force extraordinaire, c'est de s'emparer d'un événement réel, d'un fait presque ordinaire, pas si ordinaire que cela, mais en tout cas de le transformer et d'en faire cette image où l'on voit non seulement le Christ suspendu à l'hélicoptère, mais on voit dans l'hélicoptère le reporter qui est Mastroianni et on voit le photographe qui travaille avec Mastroianni, Paparazzo, qui donnera ensuite évidemment cette appellation de tous ces reporters qui essaient de saisir des images scandaleuses.
C'est le premier, le Paparazzo, qui donne son nom.
C'est le Paparazzo qui donne son nom, ça devient en plus, après on le met évidemment au pluriel, les paparazzi, et ils essaient même, alors qu'ils transportent le Christ vers le Vatican, ils essaient même de se faire donner les numéros de téléphone des jeunes femmes qui sont en train de prendre le soleil sur le toit de l'immeuble.
Tous les points de vue sont reliés finalement dès cette première scène, hein, celui de l'hélicoptère, du spectateur, des femmes qui regardent l'hélicoptère, de Mastroianni qui regarde les femmes, dans une espèce de mélange de danse qui traverse toute la structure du film.
Oui, et qui donne un peu l'idée d'une forme d'ubiquité. La caméra est partout, la caméra peut tout saisir, et en saisissant tout et en projetant sur l'écran, elle nous donne cette capacité. Nous nous trouvons un peu démiurge comme Fellini. Fellini est un démiurge, mais qui transforme le spectateur en démiurge à son tour.
Son goût pour l'artifice va si loin qu'il préfère pour ce film reconstituer en studio une des rues principales de Rome, la Via Veneto, plutôt que de tourner dans cette rue. Bon, il n'a pas obtenu l'autorisation de le faire, mais ça l'arrangeait bien.
Ça l'arrangeait bien, et je dirais que c'est une situation qui va lui donner de nouvelles possibilités. En ce sens que Fellini, a priori, on a toujours le sentiment après coup que Fellini allait travailler en décor. Non, dans les premiers films de Fellini, quand on pense à Albidone, aux Nuits de Cabiria, à La Strada, ils sont tournés selon les canons de l'époque dans les années 50, c'est-à-dire en décor réels. On va sur des lieux réels. Or, ici, il doit mettre en scène la Via Veneto et il découvre que tourner sur la Via Veneto, c'est comme si on voulait tourner aux Champs-Élysées. C'est très compliqué, ça pose des tas de problèmes. Et il décide de la reconstituer en studio grâce à Piero Gherardi, qui est un formidable créateur de décors. Et quand on voit des images du plateau, on est, mais je dirais, bouleversé de voir ce qu'est ce décor. Et finalement, il va prendre conscience qu'il arrive à obtenir par de l'artifice quelque chose de plus efficace que si c'était réel. Il dira d'ailleurs plus tard que lorsqu'il traverse la Via Veneto, où il allait souvent, il avait 2 ou 3 restaurants qui étaient les lieux où il déjeunait pratiquement tous les jours, lorsqu'il traversait la Via Veneto, il finissait par penser que cette Via Veneto réelle qu'il a sous les yeux était moins réelle que celle qu'il avait réussi à reconstruire dans les studios de Cinecittà.
Fellini nous aventure au milieu de sociétés qui n'ont rien à nous apprendre de définitif sur elles-mêmes. Des sociétés de doute, des sociétés non pas de pierre mais de sable et d'alluvion. La société, selon Fellini, est une société incertaine. D'abord parce que cette société est une société en train de s'écrouler. Corrompue, débauchée, ivre, grimaçante, la société que nous fait voir Fellini est en complète décadence. Mais elle ne l'est pas inconsciemment. Il s'agit d'un monde en train de s'interroger, de se tâter, qui hésite avant de mourir. Fellini est le plus impitoyable témoin du pourrissement du monde occidental. Le paysage humain qu'il nous montre en mouvement est à la fois la plus terrible et la plus grotesque caricature de la société des hommes. Bestiaire plutôt qu'étude humaine, elle nous montre tous les types de groins et de mufles dans toutes les situations. Prostituées, déesses, androgynes, succubes, ecclésiastiques hideux, militaires abominables, parasites, artistes, faux poètes, faux prophètes, hypocrites, assassins, menteurs, jouisseurs, tous réels et tous méconnaissables, enfermés dans leur propre enfer et perpétrant leurs crimes mécaniques sans espoir d'être libres, sans espoir de survie. En deçà de la parole, en deçà de l'amour et de la conscience, ils semblent les derniers survivants d'une catastrophe incompréhensible, prisonniers de leurs eaux sans spectateurs. Cette société maudite est la nôtre, nous n'en doutons pas.
A me invece Roma piace moltissimo. È una specie di giungla, tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene.
Anch'io vorrei nascondermi, ma non ci riesco. Non ci riesco.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Faisons un tour ou restons ici comme vous voulez.
Je voudrais vivre dans une île.
Il n'y a qu'à vous en offrir une?
J'y ai pensé. Mais ça ne changerait rien.
Savez-vous quel est votre malheur? C'est d'avoir trop d'argent.
Et le vôtre de ne pas en avoir assez? Et nous voilà échoués ici tous les deux.
Mais je ne trouve pas que ce soit un malheur. Vous savez, c'est déjà pas si mal de savoir être mécontent de soi. Qu'est-ce que vous êtes fait, là?
Rien.
Avec tout votre argent, vous ne devriez pas vous en faire. De toute façon, vous retomberez toujours sur vos pieds.
Vous croyez?
Oui.
Je retomberai sur mes pieds, mais je ne m'écroulerai vite. Il faut une certaine force dans la vie pour ne pas s'effondrer. Il n'y a que l'amour qui me donne de la force.
Alors, vive l'amour.
La société de Fellini est plus proche d'un bestiaire que d'une communauté humaine. Hein. C'est le terme qu'emploie Leclésio dans le texte qu'on a entendu avant, interprété par Georges Clay. Ce texte magnifique qui décrit très bien la société fellinienne. Et pourtant, ce bestiaire, et c'est peut-être la nouveauté de la Dolce Vita, peut-être pour ça qu'il a aussi choqué, se voit augmenté d'une catégorie d'animaux qui n'existait pas dans le néoréalisme italien auparavant. C'est la catégorie de la mondanité, de ces riches âmes qui errent et qui, dont le sens de leur vie n'est pas plus présent que chez les autres, mais comme ils ont de l'argent, ils ont le temps de se poser la question. C'est ça qui est différent, Jean-Gély.
Oui, je voudrais d'abord souligner que nous avons entendu, c'était la version française,
oui.
Et donc on entendait la voix merveilleuse d'Anouk Aimée. Anouk Aimée.
Et de Roland Ménard.
Et de Roland Ménard, mais Roland Ménard, c'est sa voix, c'est tout.
Oui.
Tandis qu'Anouk Aimée, elle jouait dans le film et elle était doublée. Et évidemment, elle s'est doublée, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'enregistrement sur le plateau, éventuellement, du dialogue en français, elle se doublait elle-même. Et la qualité de sa voix, la sensibilité de son interprétation fait que ce personnage qui pourrait être fondamentalement antipathique, qui pourrait même être horrible.
Il est bouleversant.
Il est bouleversant. Hein. Il nous fait sentir toute la fragilité qu'il peut y avoir chez ce
personnage. Alors présentons-le peut-être, ce personnage.
C'est une femme très riche qui déambule dans ces soirées qui se déroulent quotidiennement, où elle transporte son ennui, sa recherche de l'âme sœur, sa recherche de l'amour. De l'amour et de la sexualité, puisque finalement, dans la séquence dont nous parlons...
On est
au début du film. Ils finissent tous les deux, Mastroianni et Anouk Aimée, c'est-à-dire le reporter qui travaille pour des journaux à Potin, à Scandale, et la riche héritière qui transporte son ennui, je
sa
répète.
Mélancolie,
sa mélancolie. Son...
Derrière ses lunettes noires au milieu d'une soirée.
Au milieu d'une soirée où elle demande même, Mastroianni lui propose même de l'épouser, elle lui répond oui, alors qu'en même temps elle se laisse déjà courtiser par un autre homme, enfin il y a une espèce de duplicité. Et ils finissent la nuit chez une prostituée, quoi. C'est-à-dire ils vont faire...
Il lui propose de la ramener et oui. En réalité, une fois arrivée chez elle dans une espèce d'appartement sordide et inondé... ils font l'amour dans son lit.
Dans son lit, en lui demandant d'attendre dehors et de leur préparer un café. Évidemment, on est dans la périphérie.
Ce qu'elle fait volontiers, d'ailleurs.
Ce qu'elle fait volontiers, on est à la périphérie romaine. Il faut dire aussi que quand ils s'en vont, ils laissent une gratification certainement plus importante que celle auquel elle était habituée. Donc, il y a là un personnage extrêmement touchant qui pourrait, je répète, être fondamentalement antipathique et qui devient extrêmement touchant et qui fait partie de cette galerie de personnages touchants tel que Fellini peut les décrire. Pour lui, l'approche de cette société, c'est un peu comme si c'était un cercle de l'enfer. Il ne faut pas oublier que Fellini est quand même un spiritualiste, profondément marqué par ses convictions religieuses, par sa croyance à la spiritualité. Et ce monde, il le regarde avec une violence inouïe, mais en même temps, avec le regard d'un Dieu qui déjà pardonne, qui comprend que ces êtres sont dans ce cercle de l'enfer et que normalement, leur cheminement devrait les conduire au purgatoire. Sinon, ultérieurement, et de manière hypothétique, au paradis.
Donc, mais le terme même de Dolce Vita, il l'a dit, il a fait l'objet d'un malentendu, c'est que pour lui, c'était pas ironique, c'était pas tant la douce vie que la douceur de vivre.
La douceur de vivre, oui, bien sûr, la douceur de vivre comme une espèce de rêve inaccessible, comme tentative désespérée de trouver un sens à la vie. Donc, il y a chez lui à la fois un individu qui punit, qui est prêt à fustiger, et en même temps qui comprend, qui absout. Et je pense qu'il se reconnaît lui-même parmi ses personnages. On l'a souvent dit, et c'est une évidence, que Mastroianni était un peu son double. D'où d'ailleurs son souci de ne pas prendre un acteur type Paul Newman, mais au contraire de prendre un individu relativement anodin, puisque lui-même ne se considérait pas, au moins dans son apparence physique, comme un personnage sortant de l'ordinaire. Donc, il voulait un double qui n'impose pas une figure trop envahissante. En réalité, je pense qu'il a été dépassé par sa créature. Je pense que, tout d'un coup, face à cet acteur, que personne ne voyait comme cela, la créature lui a échappé et est devenue une espèce de mythe, d'icône, que le film va lancer de façon extraordinaire.
Je pense que c'est toujours très difficile pour un auteur, pour un écrivain, pour un cinéaste de trouver l'origine de son idée. Je m'excuse, j'ai essayé de commencer à parler en français, mais c'est vraiment trop difficile pour moi. Alors, je m'excuse, mais je parle en italien. Oui. Vorrei dire che la necessità è nata dal tentativo di raccontare in un film uno stato d'animo di incertezza, di confusione, di caos e di contraddizione. Come quello in cui forse troppo personalmente io mi trovo, ma credo che sia, che rispecchia abbastanza fedelmente uno stato d'animo comune anche agli altri uomini.
Oui, je vais essayer de résumer votre développement, Federico Fellini. Vous essayez au fond de traduire en état d'âme une certaine confusion, un certain trouble que vous avez noté dans la société contemporaine. Oui, c'est là votre ambition en faisant ce film.
Oui, peut-être un peu trop ambitieux, mais c'est ça l'intention originale.
Se ti insegue la nostalgia, se un amore devi scordare, non passare per questa via mai. Ma se ami la frenesia di una vita multicolore, tutto trovi solo se vieni qui. Questa strada sembra finta e dipinta da Renoir. C'è una fetta di Manhattan e una fetta di Boulevard.
La Dolce Vita, c'est celle de Fellini qui nous accompagne toute cette semaine. Dolce Vita aujourd'hui, Casanova demain, 8h30 mercredi, Amarcord jeudi. Pour commencer cette semaine fellinienne, j'ai le grand plaisir d'accueillir en studio Jean Gilly, historien spécialiste du cinéma italien, membre du comité de rédaction de la revue Positif, qui vient de faire paraître aux éditions de La Martinière un magnifique ouvrage consacré à Marcello Mastroianni et qui avait fait paraître il y a quelques années déjà, un ouvrage consacré à Fellini intitulé « Le magicien du réel » chez Gallimard.
Taina a detto che tu hai due amore e che non sai scegliere fra i due, giornalismo e letteratura. Attento alla prigione, stai libero, disponibile, come me. Non sposate niente, non scelga mai. Anche nell'amore è meglio essere scelto. Great thing is to burn and not to freeze.
Il y a quelques années, je dévorais tous vos poèmes, parce qu'à l'époque, je pensais que j'allais en écrire aussi. Vous avez un talent si viril, c'est clair. On ne dirait pas l'œuvre d'une femme.
Mais qu'est-ce que tu sais des femmes, toi?
La poésie est l'expression formelle que je préfère, et je crois que ce sera l'art de demain. C'est l'art de la clarté, de la netteté. Sans rhétorique inutile, sans mensonge, sans complaisance. J'ai un métier qui ne me satisfait pas, mais je pense aux exigences du monde de demain.
Demain, nous y pensons tous. Mais aujourd'hui, c'est très important. Il me semble que si on vit d'une façon intense, dans une complète plénitude d'esprit et de toutes nos facultés, chaque moment vaut au moins une année. Et chaque année, on rajeunit de 5 ans.
Iris, ce soir, tu es un oracle.
Un oracle, mais un oracle alcoolique. Il y a 3 évasions pour moi. L'alcool, le tabac, il lit.
Et tu appelles ça de la sagesse.
Oh, toi, tu m'as lu, mais tu m'as pas bien comprise. Tu es tellement primitive. Tu es aussi primitive qu'une flèche de cathédrale. De cathédrale. Tu es tellement haut, nos voix s'éteignent avant de t'arriver.
Si tu me voyais sous mon vrai jour, tu t'apercevrais que je ne suis pas plus haut que ça.
Quiet a moment, please. Dialogue between feminine wisdom and... masculine uncertainty.
Cathédrale. Tu es tellement haut, nos voix s'éteignent avant de t'arriver.
Si tu me voyais sous mon vrai jour, je t'apercevrais que je ne suis pas plus haut que ça.
Quiet a moment, please. Dialogue between...
On peut regarder ce film, La Dolce Vita, Angélie, comme une succession de fragments qui sont reliés par un ordre qui n'est pas tant chronologique qu'esthétique, sans doute. Le film ne cesse d'ouvrir des pistes qu'il ne va pas explorer jusqu'au bout. La scène qu'on a entendue une soirée chez son ami Steiner arrive après de nombreuses scènes dont finalement le déroulé n'est pas nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans cette scène. Donc on a fait un bond en avant pour entendre cet oracle, l'oracle alcoolique, oracolo alcolico en italien, qui professe... qui fait comme s'il pouvait connaître l'avenir et donne à entendre une espèce d'ennui de ces mondains qui s'amusent et qui en même temps s'interrogent vraiment sur le sens de leur existence, oscillant entre la fête et la mélancolie en réalité.
Oui, je crois très fortement la mélancolie, quoi. Et je dirais que la fête, c'est une tentative de répondre à cette mélancolie, une tentative de... la domestiquer, de la rendre moins dure à supporter. Fellini était quelqu'un de profondément angoissé, quoi. Profondément angoissé par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à sa création, par rapport à l'insatisfaction qui naissait de son travail. C'est quelqu'un qui, dans le fond, a rêvé de maîtriser totalement les moyens de sa création. Or, on peut maîtriser totalement les moyens de sa création lorsqu'on écrit des poèmes, d'ailleurs il y est fait allusion, lorsqu'on écrit l'écriture, lorsqu'on peint, lorsqu'on compose, d'où son admiration d'ailleurs pour Nino Rota, qui considérait un musicien
Le compositeur des musiques des films de Fellini.
Le compositeur de tous ces films, jusqu'au seul, les derniers n'ont pas été écrits par Nino Rota parce qu'il était décédé, mais qui avait donc ce rêve de plénitude dans l'affirmation de la création. Or, le cinéma ne lui permettait pas ça. Le cinéma, c'est un art contingent. Le cinéma, c'est un art où interviennent quantité de collaborateurs, d'où son attention d'ailleurs à les choisir avec un soin extrême, et le sentiment que, dans le fond, il ne parvenait pas à s'épanouir totalement dans ce mode d'expression. D'où, dans le fond, cette approche par éléments, et non pas dans la continuité d'un récit. On l'a souvent souligné que la Dolce Vita a amené une espèce de rupture dans la façon de mettre en scène un film. Au lieu de raconter une histoire avec un début, des étapes intermédiaires et une conclusion, Fellini met en place un certain nombre de pièces, d'une sorte de puzzle, ce qui fait qu'effectivement, on peut prendre, de ce point de vue, citer Fellini, même à la radio, est relativement facile parce que il y a un ensemble de pièces unitaires que l'on peut extraire de l'ensemble dans lequel elles se trouvent. Et puis ensuite, le travail du spectateur, qui rend d'ailleurs la vision d'un film de Fellini particulièrement exigeante, il appartiendra au spectateur de reconstituer cette mosaïque d'impressions. Et en cela, dans le fond, il a bouleversé, et je crois une fois de plus, comme tout à l'heure on le disait à propos de la découverte de la possibilité d'utiliser le décor de studio pour exprimer la réalité, je crois que là aussi c'est un peu en tâtonnant que Fellini progressivement découvre cette façon de raconter, qui est une façon où les blocs sont totalement autonomes, et il s'aperçoit que c'est précisément en fragmentant le récit, en le rendant discontinu, qu'il parvient à trouver une forme d'unité, quoi, qui est son rêve. Arriver à rassembler. Et la Dolce Vita, d'ailleurs, quand on y pense après coup, on finit par oublier les différents éléments qui composent pour en garder une mémoire unitaire. On a l'impression que l'ensemble, et alors l'ensemble culmine, et ça c'est sans doute la magie de Fellini, dans une des scènes les plus fameuses de l'histoire du cinéma, et je ne dis pas du cinéma italien, je dis de l'histoire du cinéma tout court, qui est la séquence de la Fontaine de Trevi, quoi, qui est une séquence d'une totale autonomie et qu'on peut isoler. Hein, voilà, c'est la Fontaine de Trevi, et on ne peut pas passer, moi, quand je vais à Rome, je vais systématiquement devant la Fontaine de Trevi, mais non pas pour voir la Fontaine de Trevi, pour me remémorer le film de Fellini.
Ça tombe bien, on l'a sous la main, écoutez.
Silvia, che fai?
Marcello, we must find some milk.
No, tesoro, ma dove lo trovo il latte a quest'ora?
I saw Bob, over there.
Silvia, dai, dove vai con quel gatto? Roma è piena di gatti, se ci mettiamo a cercare... Wait in my car. Ci vado io.
Yeah. Oh, hello. Marcello, where are you? Where did it go for that milk? My goodness. Marcello, come here. Hurry up.
Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto.
Listen.
Avec la Dolce Vita, Fellini met en image la violente, dramatique antinomie de bataille. Le paradoxe de l'excès, qui soutient de façon sinistre qu'au maximum d'exubérance productive correspond toujours une perte maximale. Voilà l'abîme. la bouleversante vérité d'un labyrinthe permanent que les hommes essaient de fuir par les quelques armes mesquines dont ils disposent. Une ironie fatiguée, ennuyeuse, répétitive. Et puis la distraction, on passe à autre chose. Ce n'est pas un hasard. La structure narrative révolutionnaire, en bloc, du film de Fellini, ne permet au protagoniste Marcello que cette solution tragique parce que non résolue. Passer à autre chose. Errer, sans but. Presque toujours dans le vide larmoyant de la nuit. Comme chez Céline, autre gigantesque faiseur d'images, égal de Fellini, la nuit devient miroir impitoyable de la condition des individus. Et les tue. Les rend opaques par un souffle fait de néant. Et ainsi les tue. Toutefois, condamné à son vagabondage romain, Mastroianni s'acharne dans l'assidue fréquentation de tout événement social important. Jean-Gilly, c'est formidable d'entendre l'extrait de La Fontaine de Trévi à la radio parce qu'on y entend l'introduction du son de La Fontaine qui s'arrête au moment où Sylvia, interprétée par Anita Ekberg, dit « Listen, écoute », et c'est là que le silence se fait et que le jour est arrivé sans qu'on s'en rende compte.
Ça, il y a une maîtrise du temps, une maîtrise de la durée, une maîtrise donc également de la durée filmique. C'est le miracle un petit peu de Fellini, c'est d'arriver à transformer de la durée réelle, de la durée temporelle, en durée filmique. Et donc cette nuit qu'on passe avec Marcello et Sylvia, qui déambulent dans Rome, qui sont allés à l'extérieur, elle est allée hurler comme un loup dans la campagne romaine, puis finalement ils se retrouvent dans le centre, et finalement se baignent dans cette fontaine de Trévi qui est totalement vide de tout touriste, puisqu'on est au petit matin, enfin que la nuit est en train de s'achever. Il arrive donc à créer cette durée et à la rendre sensible. C'est-à-dire que nous sommes emportés par cette rencontre, nous sommes fascinés par cette rencontre, et dans le fond, on est un peu tous dans la peau de Marcello, quoi.
C'est-à-dire ceux qui profitent de ce spectacle de voir une espèce de Marilyn Monroe américaine à la poitrine plantureuse se prélasser dans l'eau de la fontaine de Trévi.
Absolument, parce qu'il y a un côté profanation en même temps. Hein, cette fontaine qui a d'ailleurs été conçue par des cardinaux, donc qui a un sens religieux. Bon, elle devient une sorte de dieu païen, d'Ève païenne, d'Ève des origines. Et Marcello, qui est un personnage à la recherche de lui-même, et en cela il est effectivement le double de Fellini, qui lui-même est à la recherche de lui-même, qui essaie de comprendre, de mettre un peu d'ordre dans le chaos. Il était d'ailleurs question du chaos quand Fellini parle, dans la traduction le mot n'est pas prononcé, mais Fellini parle d'un chaos personnel. Et dans le fond, il est un peu comme un petit poussé qui essaie de retrouver son chemin, hein. Fellini est quelqu'un de perdu. Alors parfois on a dit il est perdu dans la cité des femmes. Moi je dirais qu'il est autant perdu dans la cité des femmes que dans la cité des hommes. Enfin en tout cas c'est un homme perdu qui essaie désespérément au travers de son travail de cinéaste, de créateur, plus que de cinéaste, de créateur de manière plus totalisante, de retrouver son chemin.
Le texte que j'ai lu à la suite de l'extrait est écrit par le réalisateur Paolo Sorrentino, le réalisateur italien qui peut être considéré comme un Fellini contemporain, puisqu'avec son film La Grande Bellezza, il filme dans Rome la mélancolie de personnes errantes et qui se perdent aussi dans les troubles de la fête.
Oui, moi je suis un admirateur, je dirais, absolu de Sorrentino. Je sais qu'il suscite des réserves, y compris en Italie.
Je partage votre enthousiasme, mais le constat qu'il fait concernant la Dolce Vita me paraît très juste. Il cite Bataille, hein, l'antinomie de Bataille, le paradoxe de l'excès, qui soutient qu'au maximum d'exubérance productive correspond toujours une perte maximale. C'est une bonne façon de parler de la Dolce Vita.
Absolument. Et Sorrentino, là-dessus, dont on a dit à juste titre qu'il s'inscrivait dans la lignée de Fellini, je dirais même qu'il réussit à recréer, quelle gageure, hein, d'arriver à refaire une grande bellezza qui est l'équivalent de sa de sa vision personnelle, de sa Dolce Vita à lui, parce que d'une certaine manière, le film de Sorrentino est une Dolce Vita, c'est évident. Le personnage principal, dans lequel on a vu un dédoublement du personnage de Mastroianni, avec Tony Servillo, c'est un garçon qui réussit à ne pas se ridiculiser. Quel cinéaste réussirait à faire quelque chose qui s'apparente à du Fellini sans se ridiculiser?
Il nous reste peu de temps pour continuer à discuter de ce film, Jean Gilly. Alors malheureusement, on n'a pas les trois heures conventionnelles qui sont pour les films de Fellini, mais juste 50 minutes. Alors je vous propose que ces dernières minutes soient consacrées au commentaire ou la réflexion des derniers plans de la Dolce Vita, assez énigmatique, qui renvoie, alors là on parlait de mélancolie, peut-être de nostalgie. Écoutons ce que l'on peut entendre de cette scène avec les oreilles et puis on y ajoutera de l'image ensuite.
Mamma mia, che schifezza ne verrà fuori!
Indietro, indietro, stai indietro!
Andiamo che arrivi, piano! Anche di doppia rete!
Ehi ragazzi, venite a vedere, c'è un mostro! Vedete un guarito, un pesciano!
Oddio, lo scoglio!
Guardate, io ho la più spella di Gius!
Ma è vivo!
Questo è morto da tre giorni!
Mais c'est un fou,
il y a trois jours qu'il est mort.
Et il m'a bousillé tous mes filets. Peut-être j'aurais mieux fait de rester couché.
C'est un mâle ou une femelle?
Qu'est-ce que ça peut te faire?
Pauvre bête, c'est mal.
J'avais jamais vu.
Vous avez vu son œil? On dirait qu'il nous regarde.
Il faut imaginer une horde de personnes qui viennent de passer la nuit à boire, à lancer des plumes tirées d'un coussin dans tout l'appartement, qui, chassés de la villa à l'aube, se retrouvent sur la plage où ils voient des pêcheurs qui sortent un filet de l'eau qui contient un énorme poisson. Et le visage de Marcello, c'est sans doute ce qui n'était pas audible ici, mais ce qui marque le plus, hein, de même que Anita Ekberg dans La Fontaine de Trevi. Ce visage empreint d'une mélancolie assez troublante et qui il y a une image en particulier, on le voit lever les deux mains vers le visage, qui répond aux interpellations d'une jeune fille en face, qui essaie de lui faire signe de la main, lui demande de venir, et il lève les deux mains comme pour, en signe d'impuissance, dire mais je ne peux rien faire, et puis l'une d'entre elles retombe, l'autre passe dans sa chevelure et agite le bout des doigts comme pour dire au revoir, et il se retourne, et le film se termine, et reste ce visage marqué par l'absence de sommeil de Mastroianni, qui est en fêtard noctambule mélancolique. Image dont on ne sait pas quoi faire, Jean Gilly. C'est pour ça qu'elle marque autant, sans doute.
Oui, je pense d'ailleurs qu'il y a dans les films de Fellini une forme d'énigme. Que veut-il dire au juste? Il nous laisse dans un sentiment d'interrogation, quoi. Il faut dire que l'apparition de cette jeune fille, une jeune comédienne qui s'appelle Valeria Ciangottini,
et Paola dans le film,
renvoie à une autre apparition d'un adolescent. En l'occurrence, c'était un garçon, un enfant cheminot qui appelait Interlenghi, qui partait pour Rome et qui était déjà un double de Fellini, qui s'arrachait à la torpeur provinciale pour partir à Rome. Là, Marcello a rencontré antérieurement cette jeune fille et il est tombé sous le charme de la pureté que dégage cette jeune fille. À l'évidence, cette jeune fille, c'est un ange. Hein, il faut vraiment l'interpréter.
Il la croise plutôt dans le film, hein. On n'a pas eu l'occasion de diffuser la scène.
Oui, il l'a rencontrée dans un restaurant.
Et elle l'invite à danser, c'est une serveuse. Voilà. Elle veut
c'est une
danse.
Serveuse dans un restaurant de bord de mer, et d'ailleurs c'est le restaurant de bord de mer où se retrouve la horde de fêtards lorsqu'au petit matin, donc deux petits matins, il y a le petit matin de la Fontaine de Trevi, puis il y a le petit matin de cette nuit d'orgie qui se termine sur la plage. Donc cette jeune fille, il y avait déjà, qui est aux antipodes de toutes les femmes qu'il côtoie, toutes. Elle est aux antipodes, elle est une forme de grâce, de pureté.
Elle a quoi, 12-13 ans, elle est très jeune.
Oui, elle est très jeune, c'est une adolescente. Et elle a une grâce qui est la grâce. La grâce au sens spiritualiste du terme. C'est-à-dire qu'il croise quelqu'un qui peut éclairer sa vie, donner un sens à sa vie. Il ne veut pas l'entendre, comme de même, d'ailleurs, Interlinghi n'entendait pas le cheminot à la fin des Vitelloni. Donc, il se refuse, il n'entend pas, c'est un appel. C'est un appel, mais vraiment au sens religieux. Hein. Fellini, là, introduit une dose de spiritualité dans le comportement matérialiste, bassement matérialiste de tous les personnages qu'il nous a présentés les uns après les autres, y compris Marcello. Et Marcello a la possibilité, à ce moment-là, peut-être, de se racheter. Ce n'est pas un coupable, donc il n'a pas à se racheter, mais peut-être de trouver une autre manière d'affronter l'existence, de ne pas se laisser entraîner par ses fêtards. Et de fait, il ne l'entend pas.
Oui, il lui dit, il pourrait lire sur ses lèvres. Le spectateur arrive à lire sur ses lèvres, hein, ce qu'elle lui dit. Il lui dit, je ne comprends pas.
Mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas? C'est pas au sens premier du terme. Il ne l'entend pas. C'est-à-dire, il n'entend pas cet appel d'un au-delà, cet appel de la grâce qui se présente à lui. Cet appel à la rédemption, n'hésitons pas à employer ce type de terme. Hein. Vous savez, quand Fellini a découvert le cinéma, il a parlé de révélation, qui est un terme éminemment spiritualiste. Hein.
Mais il y a aussi une lecture moins religieuse de cette fin, qui serait la jeunesse qui salue l'homme d'un âge plus mûr qui est en face d'elle, et cette jeunesse à laquelle il tourne le dos.
Ben, c'est-à-dire, il va lui tourner de plus en plus, puisque c'est bien le propre de la jeunesse que d'être un moment fugitif, et que quand on s'en éloigne, et on ne peut que s'en éloigner, quoi. Donc, finalement, il se laisse rattraper par les pesanteurs qui ont fait de sa vie ce qu'elle est. Il vit un peu de substitution, parce qu'en même temps, il n'appartient pas à ce milieu. Mais il s'y laisse absorber, il s'y laisse prendre, il devient sourd. Le poisson, évidemment, le poisson, c'est la monstruosité humaine qui est tout d'un coup révélée par cette créature qui est là, prise dans les filets, et qui est pourrissante en plus. Enfin, tous les éléments sont là pour cette fin, finalement, extrêmement pessimiste.
Et dont on garde le souvenir de, non seulement du visage de Marcello Mastroianni, mais aussi de son costume blanc crème, son costume blanc cassé tel que le chante Christophe dans la Dolce Vita.
Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin, c'était la Dolce Vita, je cherchais l'aventure. Jusqu'au petit matin, je me prenais pour bénir en conduisant d'une main. Mais je t'ai rencontré, et puis tout a changé. Le piège était facile. Tu es tombé dans mes bras, on se promenait en ville, c'était la Dolce Vita, et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé ne pouvait pas me blaser, même dans l'obscurité, je te revois encore.
Grand merci à vous, Jean-Gilles, d'être venu me parler de la Dolce Vita aujourd'hui.
C'était un plaisir.
Un plaisir partagé. Et je vois que nous partageons également le goût pour le cinéaste Sorrentino. C'est tant mieux, on en reparlera ici sans doute. Je renvoie en tout cas les auditeurs à l'ouvrage que vous avez consacré à Marcello Mastroianni aux éditions de La Martinière. Un très beau livre avec des photos magnifiques. Et aussi Le Magicien du Réel, un ouvrage sur Fellini, publié par Gallimard dans la collection Découverte.
Pourquoi es-tu parti? Je n'ai rien compris.
Vous Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître.
Toute cette semaine, nous parcourons une anthologie proposée et présentée par Alain Laurent qui vient de paraître aux éditions des Belles Lettres, L'autre individualisme, premier pas aujourd'hui avec l'ambiguïté de cette notion. It's just me, myself and I. La foule se compose d'individus. Il doit donc être au pouvoir de chacun de devenir ce qu'il est, un individu. Absolument personne n'est exclu de l'être, excepté celui qui s'exclut lui-même en devenant foule. Je ne me trompe sans doute guère en supposant que ce qui a causé et cause le désaccord entre un certain nombre de mes contemporains et moi touchant mon œuvre littéraire, c'est pour une part la question de l'individu. Mais pour moi, comme penseur et non personnellement, cette question de l'individu est décisive entre toutes. Parler d'individu fait d'emblée penser à l'individualisme. Et évoquer l'individualisme, c'est d'emblée avoir en tête l'ampleur des critiques qu'il soulève de toutes parts. Déjà en 1848, Kierkegaard, dont je viens de lire quelques lignes, pointait cette tension à l'œuvre dans la notion d'individu, l'opposition de l'un à la foule, à la masse, qui devient aussi l'opposition d'un penseur qui défend la notion d'individu et se voit méprisé par les autres. Mais d'où vient donc un tel soulèvement contre l'individu et sa catégorie? Pourquoi l'individualisme se colore-t-il automatiquement et presque naturellement désormais d'une teinte péjorative? Eh bien, cette anthologie affronte directement ce soupçon qui fait passer l'individu au négatif individualisme pour prendre une autre voie. Et dès le titre, l'autre individualisme, qui semble nous indiquer, à côté de sa part d'ombre, la voie plus lumineuse de ce courant. Celle qu'incarne ainsi Kierkegaard, convoqué dès le début, quoiqu'il soit aussi l'incarnation du sérieux total. Car chez lui, l'individu prend une majuscule. Et c'est bien avec gravité qu'il faut lire que l'on a à devenir ce que l'on est. Non pas personnellement, pour être unique contre tous, mais tous également devenir ce que l'on est. Soit un individualisme de la singularité, mais à la portée de tous. Je rappelle le titre de cette anthologie, c'est L'autre individualisme, c'est présenté et coordonné par Alain Laurent et c'est aux éditions des Belles Lettres.
Merci beaucoup Géraldine. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette série entre cinéma et philosophie. Demain, on suivra Mr. Smith au Sénat, un film de Frank Capra. D'ici là, pour réécouter cette émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins pour télécharger l'émission, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. Un grand merci à l'équipe des Nouveaux Chemins, Antoine Ravon qui a préparé cette émission, Marianne Chassor, Ariane Mintz, Pierre Brossard, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Pascal Bénard à la prise de son aujourd'hui. Rendez-vous demain à 10h pour la suite des chemins de la philosophie. Mais tout de suite, restez à l'écoute sur France Culture.